Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, Dieu sait si j'ai cherché à vous encourager dans les épreuves que nous connaissons, si j'ai cherché à vous montrer que ces épreuves sont absolument normales dans la vie de l'Église comme dans la vie des hommes, il reste malgré tout une question que beaucoup d'entre vous se posent et à laquelle il est important de bien répondre, la question « Que faire ?» Un grand nombre de mauvaises réponses ont été données. C'est d'ailleurs une des principales raisons des épreuves que nous connaissons aujourd'hui. Pour le dire en quelques mots, on ne peut pas répondre à cette question « Que faire ?» sans nous placer du point de vue de Dieu, sans voir que le chrétien est d'abord un homme d'éternité avant d'être un homme du temps. Il est d'abord un homme du ciel avant d'être un homme de la terre. Toute la liturgie pascale nous le rappelle, et notamment cet épître que nous lisons tous les jours, cet extrait d'une épître que nous lisons tous les jours, notre conversation est dans le ciel. Le chrétien est tout d'abord un contemplatif, et ensuite un homme actif. On ne peut pas répondre correctement à la question « que faire ?», qui est l'activité, sans d'abord admettre que la primauté que tient la contemplation dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que la contemplation ? C'est l'exercice des trois vertus de foi, d'espérance et de charité. Pourquoi appelle-t-on cela contemplation et non pas simplement charité? Parce que, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que dans le ciel, nous serons dans la contemplation de Dieu. Et puis, ce qui découle de cette vérité, c'est que la foi nous met dans la connaissance de Dieu que nous ne pouvons pas aimer sans d'abord le connaître. Il y a un idéal, une merveille, une splendeur de Dieu qu'on ne peut connaître que par la foi, qu'en y pensant, qu'en s'y attardant, et surtout, cette splendeur de Dieu est le but de notre vie. On médite sur la brièveté de la vie, c'est voir la vie par rapport au temps, elle est brève, mais il faut également méditer sur l'éternité de la vie, l'éternité à laquelle nous sommes appelés. Bien sûr, la foi nous montre la Sainte Trinité et la splendeur de Dieu, un peu comme derrière un voile, je vous l'ai dit dimanche dernier. Malgré tout, elle nous fait connaître avec certitude plus que l'existence de Dieu, sa nature, sa bonté, la divinité de Jésus-Christ, l'œuvre de la grâce dans le monde, notre appel, notre prédestination à la vie divine dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un petit nombre de chrétiens qui peuvent vivre dans cet état de contemplation presque exclusive. On les appelle des contemplatifs. Ils ne sont pas le plus grand nombre. Quelques chartreux, quelques pères du désert, mais ils ne sont pas le plus grand nombre. Le plus grand nombre a besoin, pour parvenir à la contemplation, de s'exercer à la vie active. Qu'est-ce que la vie active? C'est l'exercice des vertus morales. Morales, les mœurs, le comportement. On parle des mœurs d'un animal, c'est-à-dire le comportement d'un animal. Ben, vous avez les mœurs du chrétien, c'est-à-dire le comportement du chrétien. Pour un animal, évidemment, on parle de l'instinct. Pour nous, on parle de la vertu. La vie active, quel est son but? Elle met de l'ordre dans la vie, et notamment, elle calme les passions en vue de faciliter la contemplation. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez le petit enfant qui joue avec des jouets. Il est déjà dans la contemplation de Dieu, s'il a été éduqué dans la foi. Il vibre pour Jésus qui est sur la croix. D'ailleurs, souvent, il le montre, le bon Jésus sur la croix. Pourquoi il a des clous dans les mains? Quand on le prépare à sa première communion, ce petit enfant est très contemplatif. Bien sûr, c'est une contemplation à son niveau, mais il est très contemplatif. Il sait qu'il reçoit le bon Dieu. Il sait que Jésus règne au ciel avec son Père. Il s'émerveille de cela. Et c'est d'ailleurs toute la qualité d'une bonne préparation à la première communion que d'émerveiller des enfants. Une fois, je prêchais une retraite de communion privée, donc elle est petite, vous voyez, première communion. Et la sœur qui s'occupait des petits me dit, « Monsieur l'abbé, quel va être le sujet de votre prédication ?» Et je lui dis, « Ma mère, je prêcherai sur Dieu. » Elle me dit, « Oh, ben ça, je m'en doute. » Je dis, « Non, 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 ma mère, je prêcherai sur Dieu. » Et les enfants étaient les yeux grands ouverts pour entendre parler du bon Dieu. Malgré tout, cet enfant va entrer dans la vie. Il va entrer dans la vie et la première chose qu'il va découvrir, c'est, hélas, des désordres. Des désordres chez lui et des désordres autour de lui. Des désordres chez lui, il va découvrir son égoïsme, son orgueil, sa désobéissance, sa sensualité. Des désordres autour de lui, à savoir que ses frères, ses sœurs, ses camarades ont les mêmes défauts que lui. Et il va travailler à mettre de l'ordre. Il va mettre de l'ordre parce que vous vous rendez très bien compte, mes bien chers frères, que ces défauts viennent mettre un brouillard sur la contemplation du petit enfant. La contemplation du jour de sa première communion, qui était si transparente, est un petit peu dans le brouillard par les défauts. On voit moins. On se préoccupe d'autres choses qui ne sont pas Dieu. Et toute l'éducation va consister à remettre de l'ordre. Lorsque l'enfant grandit, qu'il devient un adulte, il a déjà mis beaucoup d'ordre en lui-même et il s'aperçoit qu'il peut mettre de l'ordre autour de lui. C'est la fonction des parents dans la famille que de mettre de l'ordre. C'est la fonction des prêtres également. D'où, j'ouvre une parenthèse, mais la nécessité, si l'on veut mettre de l'ordre, d'être soi-même déjà bien en ordre. On ne se marie pas parce qu'on n'a pas les qualités pour de la vocation. On se marie parce qu'on a des grandes qualités pour éduquer les enfants. Je ferme la parenthèse. L'adulte vieillit, et lorsqu'il arrive dans la vieillesse, ses forces diminuent, ses capacités d'action diminuent, et il peut faire beaucoup moins. D'habitude, il le regrette. Il ne faut surtout pas le regretter. Il est bon que le corps qui doit disparaître avant la résurrection, mais vieillisse. Parce que c'est à l'âme de prendre le dessus. C'est à l'âme de s'épanouir. Et le vieillissement du corps, normalement, doit s'accompagner d'un rajeunissement de l'âme. Le vieillard ne peut plus faire grand-chose. On le serre, on s'occupe de lui. Il y a longtemps qu'il s'est déchargé des responsabilités qu'il avait dans le monde. Et il ne pense qu'à Dieu, qu'à son éternité. C'est dans l'ordre. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, vous vouliez répondre à la question que faire, et là vous êtes en train de nous parler d'une morale personnelle. Non. D'abord, je n'ai pas fini le sermon. Et puis, je ne vous parle pas que d'une morale personnelle. Je vous parle de ce qu'est la vie chrétienne. Cette vie chrétienne est pour vous, pour chacun d'entre vous, pour toi, pour moi, pour lui, pour elle. Elle est pour nous tous. Et comment peut-on faire quelque chose auprès du prochain si l'on n'a pas compris que lui aussi est un homme d'éternité et pas seulement nous. Comment peut-on faire quelque chose dans un pays si on n'a pas compris que tout l'ordre social a été voulu par Dieu pour mener à l'éternité bienheureuse? Par l'exercice, justement, des vertus, donc de la vie active, le roi met de l'ordre en principe, et il y a eu des rois qui l'ont fait, le roi met de l'ordre dans le pays, le père met de l'ordre dans sa famille, le maître met de l'ordre dans son atelier. Comment peut-on faire une belle armoire si on ne collabore pas avec les autres ouvriers de l'atelier, si on ne se préoccupe pas de ce qu'attendent ceux qui ont commandé l'armoire? Je ne dis pas les clients, parce que justement, on ne les considère pas que comme des clients. On considère un jeune ménage qui a demandé l'armoire des noces. Je ne sors pas de mon sujet, je m'intéresse à l'ébénisterie, et c'est surprenant de voir le nombre d'armoires de la belle époque, enfin de 17e, 18e siècle, et qui expriment à la fois l'amour des conjoints l'un pour l'autre et l'amour de Dieu. On pense à cela, on se marie pour cela, et quand on commande à quelqu'un les meubles de la maison, on attend que celui qui fait les meubles nous rappelle l'idéal pour lequel on s'est marié. Et lui-même, d'ailleurs, travaille pour cela. Bien sûr, il faudra que je vous donne des précisions. Il y aura plusieurs sermons sur le sujet. Je commence une série de sermons, de même que je vous ai fait une série de sermons sur les nécessités des épreuves qui se sont terminées pendant la semaine sainte, enfin le carême et la semaine sainte, par des sermons sur la croix, ce qu'est vraiment la croix. Il est important maintenant parce que l'Église nous y invite, elle nous y invitera plus particulièrement encore dans le temps après la Pentecôte, enfin dès maintenant déjà, il est important que nous voyons ce que nous avons à faire dans le monde, ce que Dieu attend de nous, ce qu'est la vie chrétienne, la vie, c'est-à-dire ce qui bouge. Je vous disais donc, la vie active est pour la vie contemplative. Si la vie active n'est pas pour la vie contemplative, alors il y a un grave désordre. Ça peut être soit le désordre de l'inversion, à savoir que la vie contemplative est mise au service de la vie active. C'est un défaut qui est relativement fréquent et qu'on voit quelquefois chez les séminaristes ou les jeunes prêtres. Ils se lancent dans l'apostolat et on leur a dit de faire oraison et il faut volontiers oraison. Ils font volontiers leur méditation parce que cela va nourrir leur apostolat. Faut bien le comprendre. La contemplation n'a pas pour but l'action, mais l'action a pour but la contemplation. Dieu n'a pas pour but ce qui est dans le temps, mais ce qui est dans le temps a pour but l'éternité de Dieu. Au-dessus de la vie contemplative, il y a ce que saint Augustin appelle la vie mixte. La vie mixte, c'est un rayonnement de la contemplation. C'est une vie dans laquelle il y a encore de l'action, mais cette fois-ci, l'action n'a plus pour but de mettre de l'ordre dans les passions. Elle est réduite à peu de choses, et ce qui compte, c'est le rayonnement de la splendeur de Dieu qui attire les autres. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez une jeune fille généreuse, elle était infirmière, elle l'est toujours d'ailleurs, elle est entrée dans un ordre, une congrégation hospitalière, et la voilà qui soigne les malades. Alors vous imaginez facilement, je ne dis pas toutes, parce qu'il y a des religieuses qui ont déjà acquis beaucoup de vertus, même dans leur jeune âge, mais enfin, facilement, il va falloir que ça tourne. Alors on se dépêche pour soigner le plus de malades possible, on montre son efficacité, on ne prend peut-être pas le temps de perdre le temps, comme on dit, comme si ça aurait été du temps perdu, de perdre le temps à consulter les consoeurs, à écouter les malades. Alors les malades sont bien soignés, ça c'est certain, ils sont bien soignés. Que fait la mère supérieure? Elle appelle la religieuse, elle lui dit ma sœur, c'est pas comme ça qu'on soigne les malades. Vous avez affaire à des êtres humains qui souffrent. Vous n'avez jamais souffert, ma sœur. Mais eux, ils ont souffert, ils sont encore en train de souffrir. Puis ils souffrent moralement parce que monsieur qui est ici malade s'inquiète pour sa femme, réciproquement. Alors, ma chère sœur, vous allez vous calmer, vous allez pratiquer l'humilité, vous allez pratiquer la douceur, vous allez pratiquer la bonté, vous allez pratiquer la justice en travaillant avec les autres, l'obéissance, en ne récriminant pas lorsque vous ne comprendrez pas les ordres qui vous sont donnés, etc., etc. Petit à petit, cette religieuse découvre qu'elle était un peu pleine d'elle-même et qu'il faut qu'elle soit pleine de Dieu. Elle découvre qu'un malade n'est pas simplement quelqu'un qu'on doit soigner, mais un être humain qui non seulement souffre, comme je vous l'ai dit, mais est appelé par Dieu à l'éternité. Et cette religieuse, ainsi bien formée, a vieilli. Elle a maintenant 80 ans, peut-être 90, que sais-je. Il n'est plus question, évidemment, qu'elle soit responsable de tout un étage de la clinique. Mais elle est encore assez vaillante, le bon Dieu le lui a permis. Alors, elle fait ce qui ne sert à rien. Elle fait ce qui ne sert à rien, elle repère le malade qui est troublé, celui qui ne s'est pas encore confessé, celui qui renâcle devant l'appel de l'éternité. Elle va le voir, elle lui sert un verre d'eau. Elle devine que l'oreiller était mal mis, qu'il faut le redresser. Elle devine qu'il s'inquiète pour sa femme. Alors elle informe la femme, elle la rassure. Elle fait tous ces petits riens qui ont tellement d'importance. Et à travers elle, le malade voit un peu de la bonté de Dieu qui descend près de lui. Le malade voit un peu de ce rayonnement de Dieu. Que Dieu doit être beau quand on voit la beauté du cœur de cette vieille religieuse. C'est cela la vie mixte. Nous sommes appelés, mes bien chers frères, à monter par la vie active à la vie contemplative. Et nous sommes appelés à ce que notre vie contemplative soit tellement riche qu'elle attire non pas à nous, mais à Dieu. Et j'oserais presque dire que les parents sont peut-être plus appelés à la vie mixte qu'à la vie active. En tout cas, lorsque les parents prennent de l'âge, mais même déjà quand ils sont jeunes, ce qu'on attend des parents, c'est un certain rayonnement. Lorsqu'ils font la prière en commun, lorsqu'ils sont en conversation avec le bon Dieu, on voit les enfants les imiter spontanément. Et quand les parents prennent de l'âge, on n'attend pas spécialement qu'ils soient habiles dans les choses d'ici-bas. On attend d'eux qu'ils aient la sagesse. Et ce qu'on apprécie chez eux, c'est cette porte qu'ils ouvrent vers l'éternité et que dans leur sérénité, ils montrent que la lumière au-delà de la porte est vraiment belle, est vraiment attirante. Elle vaut vraiment la peine qu'on se donne dans toute sa vie pour la gagner. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, mes bien chers frères. Il faudra évidemment faire des applications pratiques. Nous prendrons notre temps. C'est bien trop important pour que nous fassions des réponses à la va-vite. Et je vous l'ai dit, c'est probablement parce que on a fait des réponses à la va-vite qu'on est tombé dans tant d'ornières et, hélas, dans tant de ravins. Nous demanderons à la Sainte Vierge de nous prendre comme des enfants, de nous prendre par la main, de nous montrer la beauté de l'œuvre de son Fils, la bonté de Dieu qui rayonne sur la terre. La beauté, elle nous montrera combien notre Seigneur, finalement, sur terre, a fait peu de choses. En ce sens que s'il y en a un qui a vécu dans la vie mixte, c'est bien lui, en perpétuelle contemplation de son Père du ciel, et cette contemplation rayonnait, elle sortait de lui. Elle rayonnait jusque sur les corps qu'il guérissait, j'allais dire presque malgré lui. Il suffisait de toucher la frange du manteau pour être guéri. La Sainte Vierge vous révélera tout cela. Et vous, et mes chers enfants, les plus jeunes qui m'écoutez, vous demanderez à vos parents de vous expliquer cela. Vous ferez bien votre méditation tous les matins. Vous réciterez bien votre chapelet. Vous admirerez la Sainte Vierge à la crèche, vous admirerez la Sainte Vierge au pied de la croix, vous admirerez la Sainte Vierge au milieu des apôtres qui leur disaient tant de merveilles dans ces derniers jours avant la Pentecôte. Et vous chercherez à comprendre ces merveilles, à en vivre. Et je suis certain, mes chers enfants, que du coup, dans vos rapports avec vos frères et sœurs, avec vos camarades de classe, vous changerez votre attitude, comme Saint Dominique Savio, par exemple, avait une attitude d'enfant du ciel présent au milieu de ses camarades sur la terre. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.